Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Jonathan Duong, l'émission mensuelle avec le monde diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
You want to destroy some system, first defund it, then it won't work, people will be angry, they want something else. That's a standard technique for privatizing some system.
Si vous voulez détruire une structure, d'abord réduisez son financement. Ça ne marchera plus, les gens seront en colère et ils n'en voudront plus. C'est une technique basique pour privatiser une structure. Celui qui parlait ainsi il y a quelques années, c'est Noam Chomsky. Et alors, on a l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les cheminots et la SNCF. Des années de sous-financement, de mauvaises dotations, de décisions stratégiques contestables ont rendu la réforme évidemment nécessaire, voire même impérative. Impérative, c'est le mot de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Mais il n'y a pas que à la SNCF, ça craque de partout. Il y a la justice, les hôpitaux, les EHPAD, les universités. Et vous rappelez, Pierre Imbert, que c'est une philosophie qui est à l'œuvre, que ce sont les services publics qui sont attaqués de manière globale et que c'est donc l'intérêt général qu'il faut défendre. Pierre Imbert.
D'une certaine manière, on est un peu replongé dans une forme de rituel. C'est-à-dire, on a un gouvernement et une ministre qui proposent une réforme nécessaire parce que ça ne fonctionne plus, et puis les médias qui, évidemment, vont être les télégraphistes de ce discours gouvernemental en expliquant à quel point la réforme est nécessaire. Et là, bon, ce sont surtout les chaînes d'information en continu qui jouent un rôle vraiment crucial en multipliant les débats parfois baroques sur le thème « est-ce que la grève est mauvaise pour la santé ?» etc., etc. Donc voilà, les journalistes sont sur la brèche. Et ils jouent une place très importante dans cette espèce de rituel, hein, de l'annonce de la réforme, de sa légitimation. Ensuite, il y a le sondage qui va opposer les salariés aux uns aux autres en disant « voilà, les salariés du privé souhaitent que le statut des cheminots soit remis en cause, etc. Et... »
CNews, 4 avril 2018.
La grève, ça provoque du stress, il faut le dire. On avait envie d'en parler avec vous ce matin, docteur Brigitte Millot. Quelles sont les répercussions précises de ces mouvements sociaux sur la santé, ce qu'on vit en ce moment ?
Elles sont nombreuses. Mmh. Ça devient délétère lorsque le stress devient chronique. Et là, on est typiquement dans ce cas de figure, vers une chronicisation des problèmes. Et en plus, là, ce stress, il est négatif à tout point de vue. Il est mêlé de peur, la peur d'arriver en retard au travail, la peur de ne pas rentrer chez soi. Et puis, il y a ce sentiment d'impuissance, le fait de subir cette grève sans savoir du tout quoi faire. Et donc ça, c'est très mauvais pour la santé. Alors ça va entraîner une baisse de l'immunité, des troubles de l'humeur, ça peut aller jusqu'à des dépressions. Donc au lieu de subir, il va falloir agir. Il faut apprendre à respirer. Respirer, c'est inspirer par le nez et souffler longtemps par la bouche, le faire plusieurs fois.
Alors l'une des particularités de ce rituel, c'est qu'il aménage une place aussi pour les opposants. L'idée, je pense, que le gouvernement a développée, c'est qu'il fallait cantonner les opposants à la réforme au rôle de ceux qui disent « on veut défendre les services publics, on veut défendre la SNCF, on veut défendre le statut des cheminots ».
Alors que les services publics, tels qu'ils sont maintenant, c'est-à-dire délabrés, effectivement sont peu défendable, et on le retrouve ça dans la bouche des partisans de la réforme en disant « mais attendez, comment vous pouvez défendre ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, la justice ?» Vous voyez que ça ne fonctionne pas, et force est de constater, et les fonctionnaires sont les premiers à le dire, que dans l'état actuel des choses, ça ne fonctionne pas.
De fait, les opposants à cette réforme, et les opposants à tous les types de réformes, se retrouvent dans une position qui est presque un petit peu embarrassante, puisque on doit protéger et défendre une institution, un service, dont chacun, en fait, déplore le mauvais fonctionnement quotidien. Donc voilà, est-ce qu'il faut défendre chacun des services publics au moment où ils sont attaqués, ou est-ce qu'il faut pousser en avant une autre vue, une autre vision du service public, et un service qui serait véritablement au service de la population et aussi des agents qui fournissent ces services, comme ils avaient été d'ailleurs conçus à l'origine.
Et un service public au service du public, mais au service surtout des plus faibles et des moins favorisés. Parce que quand on est assez privilégié, quand on est aisé, on a les moyens de se passer du service public. On peut prendre sa voiture, on peut aller se faire soigner dans une clinique privée. Par contre, quand on est plus pauvre, là, on n'a pas le choix et on a besoin des services publics.
Ouais, exactement, et je crois que l'enjeu de la réforme, il est là, c'est que on ne parle pas, au fond, de la SNCF, ni du statut des cheminots. Ce qui est en jeu dans cette réforme, c'est l'opposition entre deux visions du monde. Entre deux visions du monde absolument opposées, antagoniques. Et je crois que la première, je vais pas faire un dessin, on la connaît, hein, c'est celle qui est portée par Macron, par Muriel Pénicaud, et leur réforme, c'est celle qui est centrée sur un individu autonome, créatif, qui va déployer ses talents, qui devient entrepreneur ou cadre supérieur, qui va s'élever dans la société pour, comme dirait Macron, devenir quelqu'un. Et je crois que dans cette vision du monde, les services publics représentent avant tout une dépense, un coût, une charge, un fardeau inutile et même une espèce de concession à l'égalité qui entrave la liberté individuelle. Et c'est un paradoxe, parce que le citoyen idéal de cette vision du monde, hein, ce cadre sub qui va créer sa start-up, etc., devenir quelqu'un, lui, s'est servi des services publics. C'est un diplômé du supérieur, la plupart du temps, à qui la collectivité a payé de longues et coûteuses études, hein, mais qui croit fermement s'être construit tout seul, grâce à son talent, à force de volonté, etc., et qui, trivialement, retire l'échelle aussitôt qu'il a fini d'y grimper. Donc ça, c'est cette première vision du monde qui se déploie et qui, à mon avis, sous-tend l'esprit des différentes réformes. Mais c'est pas uniquement celle de Macron et de Pénicaud, c'est les réformes depuis le milieu des années 80. Et à cette vision du monde, mon sentiment est qu'il faut en opposer une autre qui part d'un point de vue diamétralement différent, c'est l'idée selon laquelle l'égalité n'est pas une entrave à la liberté, mais tout au contraire, c'est la condition de possibilité de la liberté. C'est-à-dire, on est libre qu'à partir du moment où la collectivité prend en charge les besoins fondamentaux que sont eh bien, la santé, l'éducation, le transport, mais aussi devrait être le logement, l'énergie, les communications. Et je crois que le service public, ça devrait être ça. C'est-à-dire, on socialise une partie significative de la richesse pour assurer à tous et à toutes une base matérielle et aussi une base intellectuelle par l'éducation, l'enseignement supérieur, sur laquelle eh bien, chacun peut ensuite s'épanouir. C'est ça que devrait être, à mon avis, le service public. Alors, naturellement, le fondateur de start-up qui est cher à Macron va trouver tout à fait scandaleux que les cotisations ou que les impôts, ce qu'il appelle les charges, lui échappe, lui soit en quelque sorte retiré et entrave sa liberté à lui d'individu de devenir, dans le vocabulaire du président de la République, quelqu'un.
Alors, je dois vous faire une confidence.
Emmanuel Macron.
Il y a 3 ans, à peu près.
29 juin 2017.
J'avais promis à ma femme que j'arrêtais totalement la vie politique et que j'allais créer une entreprise. Que j'allais être entrepreneur. Donc j'ai essayé, j'ai commencé, et puis progressivement, j'ai pivoté le business model.
Inauguration de Station F à Paris.
Je ne suis pas en train de résumer la vie de la République, la politique française, et ce qu'est une élection présidentielle à la vie d'une entreprise. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est cet esprit entrepreneurial. Et je veux vraiment ici saluer l'intelligence et la générosité de Xavier Niel. Il a compris que les gens de sa génération qui ont réussi ont en même temps un devoir. Et ce devoir-là, ce n'est pas l'État qui l'imposera par des règles, des impôts, des normes. C'est à vous de le porter. Et donc ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien.
Donc voilà, on a deux visions du monde qui sont opposées et qui sont promues par des groupes sociaux opposés, dont les intérêts sont antagoniques. Et Bourdieu n'avait pas tort en décembre 95, je crois que c'était le 12 décembre 95, Gare de Lyon, lorsqu'il disait que, à travers la réforme de la sécurité sociale à l'époque, il s'agissait d'un enjeu de civilisation. Donc voilà, face à la réforme de Macron, à mon avis, il ne s'agit pas de dire on défend les services publics contre une énième attaque, tout en sachant au fond de soi hein, que même si on gagne, eh bien, les services publics en question seront toujours un peu mal en point. Ce rôle défensif que le gouvernement aimerait nous voir jouer, je crois que c'est l'autoroute vers la défaite. C'est celui, de fait, qu'on a emprunté depuis une trentaine d'années. Et mon sentiment, mais bon, c'est facile à dire, hein, c'est qu'il s'agit au contraire de profiter de cette mobilisation qui est forte et qu'on voit se développer à l'université, qu'on voit se développer dans des secteurs très différents, dans le privé, à Carrefour, dans les EHPAD, etc., dans le milieu hospitalier. C'est de profiter de cette mobilisation pour exiger de vrais services publics. Des services publics qui seraient à la fois efficaces, mais populaires, et dotés de moyens. Donc il s'agit quoi de tout simplement continuer et moderniser ce qui a été entamé à la libération entre 1944 et 1946.
Effectivement, tu remarques à juste titre que les dernières mobilisations victorieuses ont été défensives. Victorieuses ou non d'ailleurs, hein, mais 2016, 2010, 97, ça a été des luttes défensives. Mais il y a quand même un grand mouvement social qui a été offensif, c'était il y a 50 ans, c'était en mai 68, où là, le mouvement social d'ampleur a débouché sur des conquêtes sociales importantes, avec une place plus importante du salarié dans l'entreprise, avec une augmentation des salaires. Voilà, et ça, c'est un peu la dernière grande victoire du mouvement social. Et ce que tu proposes, c'est de passer à l'offensif, et tu as un plan de bataille en trois points, Pierre.
Un plan de bataille, peut-être pas, mais je suis convaincu que on ne peut plus tenir cette position constamment défensive, parce que les bases sur lesquelles on s'appuie pour se défendre s'érodent au fur et à mesure, et maintenant ça fait 30 ans, donc elles sont déjà sérieusement fissurées. Et il me semble que pour mobiliser des gens qui ne se sentent pas concernés par ça, et c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, le discours médiatique, l'atmosphère intellectuelle, la sélection à l'université, etc. Tout est fait pour empêcher les gens de se mobiliser. Je crois que l'idée, c'est d'avoir un projet de société qui soit mobilisateur, qui soit désirable, et qu'on puisse opposer à la vision strictement comptable et strictement individuelle que Macron, mais avant lui ses prédécesseurs, et eux mettent en avant, et qui, si on en croit les derniers référendums, commence à irriter sérieusement les gens, et pas seulement à l'irriter, quoi, à les rendre réellement malheureux à la fois intellectuellement, mais physiquement. Donc voilà, l'idée pour pousser en avant le service public, c'est déjà de se dire que c'est quelque chose qui nous est dû. Là, parfois, on a le sentiment qu'on défend quelque chose en attendant de l'État une espèce de concession.
Oui, on fait l'aumône. On réclame, on demande, s'il vous plaît, un peu de service public, alors qu'effectivement, ça nous est dû.
Ben voilà, d'abord, c'est un droit. Ils sont inscrits parfois dans la Constitution, d'autres fois dans la loi, mais la sécurité économique et sociale, l'éducation, la retraite, la santé, même les loisirs, le transport, l'accès à l'énergie, et même toutes les grandes infrastructures que ces services impliquent, tout ça, ce sont des droits. Donc on n'a pas à mendier à ceux qui font profession de nous représenter qu'ils nous les concèdent, c'est qu'ils nous les doivent. Ils nous les doivent, et s'ils ne sont pas fournis de manière excellente, ça veut dire qu'ils ne font pas leur travail, et donc que nous devons leur opposer notre raison. Donc voilà, c'est une obligation, et d'ailleurs c'est assez marrant, si vous regardez le préambule de la Constitution de 1946, qui est encore en vigueur aujourd'hui, on peut lire à l'article 9, je cite, « Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, monopole de fait, par exemple Google, 90% de parts de marché, ou Facebook, bon, ou un monopole de fait, je continue, doit devenir la propriété de la collectivité. » Voilà, ça c'est dans la Constitution, il faut quand même le rappeler quand on parle de privatiser les aéroports, les services publics.
Les privatisations sont contraires à la Constitution.
Eh bien, dans les conditions qui sont exprimées cet article, c'est-à-dire tout bien ou toute entreprise dont l'exploitation a le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait. Bon, ben, pour les aéroports, c'est le cas. Pour la SNCF, c'est le cas. Ça pourrait être le cas pour un moteur de recherche. Ça pourrait être le cas pour un service public des données personnelles, etc., etc. Donc voilà, et il me semble que pour pousser cette idée d'un service public désirable, il faudrait en premier lieu s'appuyer sur ce sentiment qui, à mon sens, est presque universellement répandu, c'est que on n'a plus les moyens de bien faire son travail. Et opposer à ce sentiment, l'idée qu'un service public doit donner aux gens les moyens de bien faire leur travail. Et c'est l'un des grands paradoxes, c'est que si aujourd'hui les services publics existent encore malgré les coups de gourdin que leur assènent tous les gouvernements, c'est parce que les agents des services publics, et souvent les agents eux, parce que sont pour beaucoup dans les services de soins, d'éducation des femmes, se plient en quatre pour fournir ces services dans les conditions les moins pires, alors même qu'elles sont dépossédées des moyens de bien faire son travail. Et ce sentiment d'être privé des moyens de bien faire son travail, il n'est pas seulement présent à la Poste, à l'Éducation nationale, dans les hôpitaux, dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, mais il est présent dans la plupart des entreprises privées. Et les ouvriers l'ont éprouvé dès les années 80, au moment de la désindustrialisation exécutée et mise en musique par le gouvernement socialiste. Les employés, les professions intermédiaires l'ont éprouvé dans les années 90, après la crise de 1993, lorsqu'il y a eu un nombre très important d'entre eux qui ont été d'une part mis au chômage, mais d'autre part que les budgets étaient réduits et que les gens n'avaient plus le temps de bien faire leur boulot. C'est une condition tout à fait insuffisante, mais absolument nécessaire pour s'épanouir, c'est que avoir le temps de bien faire son boulot. Et évidemment, une mobilisation en faveur d'un service public de qualité, populaire, pour tous, qui soit efficace et qui s'appuie sur l'idée de donner aux gens les moyens de bien faire leur boulot serait d'autant plus populaire du côté du privé que chacun dans le privé sait ce que c'est que de travailler dans des conditions contraires. Donc ça me paraît un premier principe intéressant. Le deuxième principe, c'est qu'un service public, il doit être avant tout ancré chez les gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les classes populaires, les ouvriers, les employés, les petites professions intermédiaires qui constituent une majorité de la population et qui n'habitent pas dans les centres-villes des grandes métropoles. Elles sont en banlieue, elles sont dans les campagnes, elles sont dans des villes moyennes.
C'est justement là où on supprime les services publics, où on supprime les bureaux de poste, où on supprime des classes dans les écoles, où on supprime des petites lignes de train qui ne sont pas rentables.
Absolument, et c'est là, à mon sens, qu'il faudrait pousser la mise en œuvre de ce service public d'intérêt général qu'on appelle de nos voeux, qui servirait tout le monde. Il faudrait que ce soit plus à Toul ou à Vierzon qu'on expérimente un service public qui repose sur le numérique, sur les données, pour régler par exemple les transports publics, plutôt qu'à Paris, dans le 19e ou le 11e arrondissement, où les classes moyennes cultivées, ou la bourgeoisie tout simplement, a désormais, en quelque sorte, revendiqué le monopole de la modernité. Longtemps, ça a été les classes populaires qui symbolisaient la modernité.
Maintenant, elles sont conservatrices. Elles sont archaïques.
On les décrit comme conservatrices et archaïques, après les avoir dépossédées de tous les moyens d'exprimer un projet politique. Mais quand les classes populaires ont construit la sécurité sociale, qui était un projet extrêmement moderne, un projet d'avenir, tellement d'avenir qu'il fonctionne toujours aujourd'hui, de la même manière que les retraites, elles étaient à l'avant-garde. Et mon sentiment, c'est que qu'il s'agisse des banlieues, qu'il s'agisse des petites villes moyennes qui sont, bah, comme tu dis, privées des services publics élémentaires, hein, en matière de santé, par exemple, bon, c'est frappant. Eh bien, c'est là qu'un service public universel de qualité, réellement populaire, devrait s'implanter en priorité.
Donc ça, c'était le deuxième point de votre programme, Pierre, la répartition géographique des services publics. Et